France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le Haut Commissariat en charge des retraites a un nouveau patron. Il s'appelle Laurent Pietraszewski. Ce député La République En Marche du Nord a découvert le monde politique lors de la campagne d'Emmanuel Macron en 2016. Jusque-là rapporteur de la loi Travail, puis porte-parole du parti, il connaît très bien le dossier retraite et il a donc été nommé hier soir par le président de la République en remplacement de Jean-Paul Delevoye. Ce dernier avait démissionné avant-hier après la révélation de mandats non déclarés. Cette nomination a été annoncée quelques heures après les manifestations contre la réforme des retraites. Selon le ministère, 615 000 personnes étaient dans les rues un peu partout en France hier. Elles étaient 1 800 000 selon la CGT. Le cabinet Occurrence, lui, a compté pour Radio France 72 500 manifestants à Paris. Hier soir, l'intersyndicale a décidé la poursuite du mouvement par des actions locales à partir de demain et jusque fin décembre, Noël compris. Et c'est pour éviter des blocages à Noël que le gouvernement reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux. Rendez-vous est pris à Matignon, chacun leur tour à partir de 14h. Le vote s'annonce historique. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire. Ce mercredi aux États-Unis, la Chambre des représentants va se prononcer sur la mise en accusation de Donald Trump. Le président américain est en passe de devenir le 3e président renvoyé en procès pour destitution. Reste que les républicains, notamment au Sénat, rejetteront en bloc ces accusations et devraient à terme blanchir Donald Trump. Il est accusé d'abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès dans l'affaire ukrainienne. Notons enfin que le mariage entre PSA et Fiat Chrysler est proche. Les deux constructeurs automobiles devraient annoncer ce matin avoir conclu un accord de fusion. Le nouveau groupe de plus de 400 000 salariés deviendrait le numéro 4 mondial avec près de 9 millions de véhicules vendus chaque année.
Informer, comprendre, chaque jour, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Je vous attends chaque jour de la semaine dès 7h pour 2 heures d'actualité, d'analyse et de commentaires en compagnie d'artistes, d'intellectuels et de journalistes de la rédaction de France Culture.
Les matins de France Culture, de lundi à vendredi à 7h et sur franceculture.fr.
La police est-elle plus violente sous la présidence Macron? Les ondes de téléphone portable donnent-elles le cancer? L'allaitement est-il indispensable pour le nourrisson? L'homosexualité est-elle un choix? Mais surtout, est-ce que le Père Noël, Rubicon et Barbu est une invention de Coca-Cola? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses, les idées claires. C'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Sur France Culture, votre pilule matinale de culture, c'est avec Toufik Hakem, il est 6h03.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel de ce mercredi 18 décembre 2019. Comprendre ce qui nous arrive. Comprendre ces contestations, mobilisations, grèves qui paralysent le pays. C'est une journée spéciale sur France Culture qui s'ouvre, intitulée « En raison d'un conflit social ». Et c'est une journée pour écouter des témoignages, tenter de comprendre et d'analyser les situations, confronter des points de vue, éclairer ce vaste sujet en passant aussi par l'histoire, la philosophie, l'économie, les sciences, la culture. Toutes les émissions de notre antenne seront consacrées à cette crise que nous vivons peut-être différemment, mais que nous partageons ensemble. Mon invité ce matin est le cinéaste Stéphane Brisé. Stéphane Brisé parce qu'il a réalisé des films sur les conflits sociaux, comme on dit. Mais comment fait-on dans une époque saturée d'images pour faire un film de fiction et de réflexion pour raconter les crises politiques contemporaines? Stéphane Brisé, il faut le rappeler, est l'auteur de La loi du marché, sorti en 2015 et qui avait fait plus d'un million d'entrées en salle. Et surtout, En guerre, film sorti l'année dernière, les deux films avec son acteur fétiche Vincent Lindon, deux films en prise directe avec les luttes syndicales d'aujourd'hui face à des logiques néolibérales de plus en plus brutales. Stéphane Brisé donc est le premier invité de notre journée spéciale sur France Culture. Bonjour Stéphane Brisé.
Bonjour.
C'est donc vous le, le premier intervenant de cette journée spéciale sur France Culture, vous parce que vous êtes réalisateur, vous parce que vous êtes intéressé aux mouvements sociaux, vous avez même réalisé des films très en prise directe avec tout ce qu'a connu la France ces dernières années, vous en préparez un puisque vous allez être en tournage bientôt qui sera de cette même veine, c'est-à-dire une veine sociale. Avant de parler de comment représenter justement les mouvements sociaux au cinéma, du recul qu'il faut avoir pour essayer d'imaginer une fiction, je voudrais avoir votre réaction à chaud sur toutes les images qui nous arrivent aujourd'hui par les télévisions, qu'elles soient publiques ou privées, ou par internet, de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire les dernières séquences sociales, depuis le mouvement des Gilets jaunes jusqu'à ces grèves contre la réforme des retraites. Comment vous les voyez ces images? Comment vous les analysez?
Je suis heureux que ce discours-là surgisse dans l'espace public. Je trouve que c'est un pays qui ne se laisse pas complètement aller quand ça a surgi avec les Gilets jaunes. Je trouvais ça salutaire et je trouve ça encore salutaire que des gens se mobilisent face à un discours d'opposition, des oppositions de soi-disant des privilégiés face à des non-privilégiés. Ce discours-là du gouvernement et des politiques, droite, gauche, tout ce qu'on veut, et République en marche aujourd'hui, c'est un discours, je trouve, d'une indécence absolue d'essayer de faire passer les règles du néolibéralisme en opposant les gens dans un pays. Je trouve ça d'un danger absolu.
Pour parler de ces images qui nous abreuvent, est-ce qu'elles nous tiennent au courant de quelque chose, d'une réalité, d'un véritable rapport de force? Est-ce que les images racontent une histoire?
Moi, je pense que les images qui surgissent dans les médias, 99% du temps, elles ne racontent pas d'histoire. Elles ne racontent pas d'histoire parce qu'elles n'ont pas de passé. Elles existent ici et maintenant. Et évidemment, pour qu'elles puissent passer en boucle, généralement, il faut qu'elle soit spectaculaire. Alors, au moment des conflits des Gilets jaunes, on passait en boucle une statue cassée à l'Arc de Triomphe, quelques vitrines cassées. Il faut du spectaculaire. Et à partir du moment où on montre ce spectaculaire, parfois des choses qui peuvent être perçues comme violentes, on ne raconte rien, parce que c'est hors contexte. Et évidemment, avec ces images-là, qui provoque souvent une forte émotion, c'est très facile pour les politiques de bomber le torse et de désigner les méchants, donc les manifestants, avec qui on ne peut évidemment pas parler, puisqu'ils ne sont que source de violence.
Ça marche dans les deux sens, hein. Il y a aussi des images des oppositions, des images qui montrent aussi les violences policières de la même manière, spectaculaires.
Oui, bien sûr, mais on n'est que dans la représentation du spectaculaire et avec la fiction, en tout cas celle qui moi m'intéresse. Enfin, il y a plein de fictions qui m'intéressent, mais en tout cas celle que j'ai envie de fabriquer en ce moment, c'est finalement fabriquer l'image manquante, celle que les médias ne veulent pas ou ne peuvent pas ou ne savent pas montrer parce qu'ils ont peut-être pas le temps, pas la possibilité de raconter les choses en perspective, et il n'y a qu'avec une ligne de fuite qu'on peut objectivement regarder quelque chose.
Comment définiriez-vous cette ligne de fuite?
Prendre du recul sur les choses. Le cinéma, c'est aussi quelque chose dans lequel on a du temps. Un scénario, ça s'écrit sur pas mal de mois. Et puis on prépare, et puis on tourne, et puis enfin vraiment, c'est un temps long et qui participe à un temps de réflexion. Le temps de la fabrication d'un film, c'est vraiment un temps qui permet de tourner autour des choses. En tout cas, c'est la manière dont moi je le fais, dont j'aime le faire, qui me permet de rencontrer finalement tous les points de vue d'une histoire. Et c'était le cas, par exemple, sur En Guerre, qui partait, en fait, d'une image violente. Enfin, c'est une image qu'on voit à la fin du film, mais ma réflexion, au départ, part d'une image violente, parce que c'est tout le temps, quasiment tout le temps ça. Quand surgit sur les écrans les cadres d'Air France qui sont arrachés leur chemise, c'est ultra spectaculaire, ça passe en boucle et inévitablement, on est dans un moment de forte émotion, on ne peut qu'avoir une forme d'empathie et de compassion pour ces deux cadres qui sont arrachés leur chemise, mais passé ce moment de sidération, on est obligé, si on est vraiment honnête, de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens arrivent à ce moment de colère et de violence? La violence, elle ne se construit automatiquement que sur la colère, et la colère se construit sur le désarroi. Et c'est toute cette histoire que la fiction peut reconstruire. Qu'est-ce qui se passe avant? Mais le avant, il n'est pas très spectaculaire. Alors c'est la fiction de le rendre intéressant, les enjeux. Et
rendre intéressant et spectaculaire, c'est pas la même chose chez vous, Stéphane Brisé.
Non, mais pour arriver au moment spectaculaire, moi j'ai reconstruit, j'ai pas reconstitué les images des deux cadres d'Air France qui se faisaient arracher la chemise, mais je reconstruis une image ultra spectaculaire et ultra violente où on voit une centaine de salariés qui retournent la voiture d'un patron, et c'est ultra spectaculaire à voir, et c'est montré à l'écran par les images de télé. Finalement, le film qui reconstruit très très fidèlement des sujets de télévision nous permet aussi, grâce à la fiction, de voir ce que les chaînes d'infos ne montrent pas.
Diriez-vous que vous avez fait ce film en guerre, en opposition à ces images-là, à cette représentation-là ?
Je l'ai fait intégralement pour légitimer la colère des gens, pas pour excuser la violence, mais pour légitimer la colère et construire l'image qui permet de comprendre pourquoi on peut arriver à un moment comme ça d'incandescence absolue.
Alors, pourquoi cette image-là ? Vous avez parlé d'image manquante, que le cinéma prend en charge cette image manquante. D'après vous, pourquoi il y a cette image manquante dans les médias de tous les jours ?
Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on ne veut pas le faire ? Est-ce qu'il y a une forme d'idéologie derrière ? Je ne prononcerai pas là-dessus, mais il y a un format peut-être, de la chaîne d'information en continu qui nécessite, pour tenir en haleine le spectateur, d'être constamment dans le spectaculaire. Et on est friand du spectaculaire, c'est fascinant. D'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas la télévision chez soi, on voit tous BFM, par exemple, parce que c'est dans tous les bistrots. Et c'est fascinant de voir, généralement, les deux tiers de l'image qui sont occupés par l'image qui tourne en boucle. Il y a peut-être 30 secondes d'image qui tourne en boucle, qui tourne en boucle. Alors un coup, c'est DSK qui sort du tribunal, ça tourne en boucle. Un coup, c'est des images spectaculaires de manifestants. Et puis il y a quelqu'un qui commente à côté, qui donne son avis, son point de vue. C'est fascinant, cette mise en scène-là. Ça ne peut pas être sans conséquence une image qui est montrée en boucle. C'est-à-dire que si on passe 20 minutes ou 30 minutes devant la télé, on l'aura vue, cette même image, un nombre de fois incalculable. Donc, elle marque les gens. Et puis, autour de ça, quel est le discours qu'on construit ? Comment on commente ces images ? Si vous regardez ces images sur BFM, vous n'en aurez pas le même commentaire que sur d'autres médias. Enfin, d'autres médias peut-être moins vus que BFM. Alors, pour fabriquer cette image manquante, il faut aussi être le plus objectif possible. Et c'est-à-dire, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, et j'essaye à chaque fois, c'est-à-dire d'aller recueillir la parole de tout le monde. C'est-à-dire, alors moi je reconstruis un conflit fictif, c'est ni Air France, ni quoi que ce soit, mais tout est absolument construit autour de témoignages réels, tout est plausible, les chiffres sont plausibles, et les mouvements sont plausibles, tout est vrai. Mais il faut aller voir tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut aller voir des ouvriers syndiqués, des avocats d'ouvriers, des avocats de patrons, des DRH, des politiques, et écouter tout le monde, comment chacun qui a vécu un conflit social s'exprime dessus, et aussi recueillir, être à l'écoute des dialectiques. C'est super passionnant. La manière dont les mots qui sont utilisés à l'intérieur des réunions, des conflits, c'est absolument, absolument, absolument fascinant. La dialectique à l'œuvre du gouvernement, elle est fascinante. Moi, j'avais lu, pour préparer mon prochain film, j'avais lu le bouquin là du Ismaël Emelien, le gars qui était un conseiller de Macron. Et toutes les trois pages, il parle de il faut maximiser ses possibles. Bon, avec ça, si on n'est pas capable de maximiser ses possibles, ça va pas, il faut maximiser ses possibles. Oui, il faut être du côté de la win, quoi. Il faut être du côté des gagnants, et c'est ce discours très culpabilisant qui est à l'œuvre. Et ça échappe à Macron quand il dit à ce jeune homme, traverser la rue. Mais moi, je traverse la rue, je trouve du travail. Ben oui, toi, tu trouves du travail en traversant la rue. Pas forcément ce jeune homme. Et c'est toujours très culpabilisant. Travaille si tu veux acheter un costume. C'est le discours du macronien et du néolibéralisme. C'est un discours très, 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 très culpabilisant. Et qui me fascine en même temps. Qui me fascine. Il y a quelques mois, il passe des heures et des heures sans même aller pisser, en discutant avec des gens dans des mairies. Il fait le tour de France en faisant ça d'une manière ultra spectaculaire. On retient voilà, qu'il parle aux gens parce qu'il a une... Il est balèze parce qu'il a une capacité à se mettre devant les gens et à donner le sentiment qu'il les écoute. Et alors que c'est pas vrai. Il les entend certainement, mais il les écoute pas. Et à l'issue de tout ça, il dit on a compris, on a entendu. Et quand tout ça s'est un peu apaisé, il sort les retraites. Donc c'est comme s'il avait envie d'éteindre l'incendie avec de l'alcool à brûler, quoi. Je trouve ça complètement dingue de faire ça. Et c'est pareil quand dans le discours ils disent mais on est obligé de le faire, les caisses sont vides. Cette information, malheureusement, elle n'a pas d'histoire, donc elle n'a pas de vérité. Oui, elles sont vides, elles peuvent être relativement vides les caisses, mais pourquoi elles sont vides? Mais parce que c'est le fruit d'une politique où on a dégagé des millions de jobs en France. Donc en dégageant des millions de jobs, il y a plein de prestations que les salariés ne payent pas, de fait, puisqu'ils sont au chômage, et que les patrons ne payent pas. Donc évidemment, ça n'aide pas à remplir les caisses. On peut aussi parler de tout cet argent qui est à l'abri chaque année, qui est défiscalisé plus ou moins légalement. Enfin, voilà, dans les paradis fiscaux, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Donc évidemment qu'elles peuvent être vides, les caisses. Et donc, quand on fait le constat qu'elles sont vides, mais sans expliquer pourquoi elles sont vides, et qu'on fait payer ensuite à tous toutes les personnes, pas parmi les plus riches évidemment, comment dire, l'addition, je trouve ça raide. C'est aussi ces 30 dernières années, on bat chaque année des records de distribution de dividendes. Ça veut dire que quand une entreprise fait des bénéfices, on en redistribue une énorme partie, et la France est championne d'Europe de ça, aux actionnaires. Ça veut dire qu'on ne revalorise pas pendant ce temps-là les salaires. Et tant qu'on ne revalorise pas les salaires, évidemment, les prestations ne grossissent pas. Donc, tout ça explique aussi pourquoi les caisses sont vides. Donc, c'est très indécent de s'arrêter à juste cette idée de bah, les caisses sont vides. Donc, on est obligé de faire ça. Vous vous rendez compte, on est obligé de le faire. Mais pendant ce temps-là, et ce n'est pas idéologique de le dire, pendant ce temps-là, les plus riches, beaucoup de gens, enfin quelques personnes se sont enrichies ces 30 dernières années. Donc c'est un système qui est objectivement, et ce n'est pas de l'idéologie de le dire, au service de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Donc ce plus grand nombre a évidemment raison à un moment de descendre dans la rue en disant « on n'en peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus, ce n'est plus possible ».
Vous avez répété 3 fois « ce n'est pas idéologique de le dire, Stéphane Brisé ». Votre métier de metteur en scène est aussi un métier où on prend position, où on s'engage, où vous vous gardez bien d'utiliser ce terme de cinéaste engagé ou cinéaste social.
Bah, le problème, c'est pas tant moi de l'utiliser le terme, c'est la manière dont il va être interprété, et que j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on parle de cinéma engagé, on a l'impression que le film devient une espèce de tract politique un peu indigeste, hein, ce qui n'est pas le cas. Ken Loach, il fait des films engagés, et c'est toujours des films passionnants, bouleversants, il crée des émotions, et c'est ça aussi, le cinéma, il sert à raconter le monde, si on veut, on n'est pas obligé, mais il peut servir à ça, et moi j'aime bien ça, en racontant des histoires d'individus. Parce que c'est toujours la question de la place d'un individu, d'un homme ou d'une femme, à l'intérieur d'un système. C'est ça qui me passionne, c'est la manière dont un système peut pervertir un individu ou le modifier, comment le système modifie un individu, en bien ou en pas bien.
Monsieur Bandori, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous?
Oui, le groupe, il a tenu ses promesses d'investissement.
On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole.
Où vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
avec Stéphane Brisé, metteur en scène ce matin dans le Réveil culturel pour cette journée spéciale sur France Culture en raison d'un mouvement social. Comment rendre compte de ce que vit la société par une œuvre artistique, par une œuvre de fiction, en tant que cinéaste? Quand vous voulez, par exemple, traiter d'un sujet qui concerne les Français ou qui concerne le monde contemporain, quelles sont les questions que vous vous posez, Stéphane Brisé?
J'essaye de ne pas partir d'a priori. J'ai une idée de l'endroit où j'ai envie de regarder. Quand c'était en guerre, bah, à l'endroit d'un conflit social qui va déboucher sur une image violente. Donc je vais construire autour de cet endroit, je vais construire un conflit social. Et puis je ne suis pas ouvrier, je ne suis pas cadre, je ne suis pas sociologue, donc j'ai pas passé des années à étudier le sujet. Donc je vais rencontrer les gens qui sont à l'intérieur du cercle qui m'intéresse.
Ça passe par là, par des rencontres, par des interviews avec les protagonistes?
Ah, mais avant de faire de la fiction, avant de construire la fiction, je rencontre des gens, mais je rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je rencontre des dizaines de personnes et on les rencontre pendant 3-4 heures. Ils nous expliquent ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, leur histoire. Et c'est en fait à l'issue de tout ça, de plusieurs mois, hein, ça prend des mois, de rencontres, que finalement la fiction va se construire. Donc il y a un périmètre qui est défini, et à l'intérieur de cet espace-là, eh ben on va rencontrer le maximum de protagonistes possibles, mais avec toujours l'idée de ne donner à personne un discours caricatural. Je veux juste faire la démonstration qu'en étant très objectif avec le discours de chacun, le système est assez dingue pour se ridiculiser lui-même. C'est pas à moi de ridiculiser les uns ou les autres. Le système, quand on prend un tout petit peu de recul dessus, et ça sert à ça le cinéma, ça sert à s'éloigner un petit peu, de faire un plan large sur une situation, le système est assez dingue et assez fou pour raconter son propre délire.
Vous allez bientôt tourner votre prochain film, Stéphane Brisé. Est-ce qu'il restera dans cette veine sociale, c'est-à-dire autour des conflits sociaux, autour de la société d'aujourd'hui, de l'économie d'aujourd'hui?
Bah oui, parce que c'est passionnant, parce que j'ai ouvert cette porte-là, je dirais en moi d'abord, il y a quelques années. Le sujet m'intéresse depuis tout le temps, mais je me sentais pas forcément suffisamment peut-être légitime pour m'en emparer. Et il y a un moment de ma vie où c'était au moment de la loi du marché où je me suis senti légitime pour aborder ce type de sujet. Et film après film, tout ce que je découvre, tout ce que je comprends, je trouve ça totalement fascinant de mieux en mieux comprendre le monde et puis de réfléchir à la place des individus à l'intérieur de cette mécanique. Le prochain film, film social, enfin en tout cas politique au sens l'organisation de la cité, la vie de la cité. Et je regarderai cette fois-ci les cadres, un directeur de site industriel qui sera joué par Vincent Lindon, qui est à un moment de sa vie où il est en train de tout perdre parce que l'injonction qu'il reçoit de dégager quelques dizaines de personnes à ce moment-là de son entreprise est une décision donc qui est clairement boursière et qui n'a plus de sens. Avec ces quelques dizaines de personnes en moins, à ce moment-là de l'histoire de son entreprise ne peut plus fonctionner. Il a été capable de faire le travail pendant un certain temps. C'est un bon soldat du système, pas méchant, qui ne s'est jamais questionné et qui, à un moment, va se retrouver être obligé de se questionner parce qu'il est en train de tout perdre, il est en train de perdre sa santé, il est en train de perdre sa vie, il est en train de perdre sa femme, il est en train de tout perdre. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les ouvriers ont été très très largement malmenés et tout a été construit pour que les lois soient faites vraiment, vraiment, vraiment objectivement à l'avantage du marché et des patrons. Mais les prochains sur la liste, c'est les cadres. Parce que déjà on voit la manière dont ils sont, dont ils explosent en vol. Le nombre de burn-out de cadres est colossal. Il y a même aujourd'hui un nombre hallucinant de jeunes qui sortent des écoles de commerce. Ils ont à peine mis un pas dans le monde de l'entreprise, qu'ils explosent en vol et même ils explosent à l'intérieur de l'entreprise. Alors, on les paye bien, très bien même, pour qu'ils ferment leur gueule. Et qu'ils agissent et qu'ils obéissent. Alors certains le peuvent, peut-être avec une certaine dose d'inconscience, de déni, de cynisme peut-être, et puis d'autres à un moment, alors que c'est des gens, c'est pas des révoltés, hein. Ils n'y arrivent plus. Et ils n'y arrivent plus. Et si ces gens-là n'y arrivent plus, c'est vraiment que le système a un énorme problème de sens, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de filmer avec dans ce prochain film.
Qui a un titre déjà, Stéphane Brisé ?
Ouais, il y a un titre, mais je sais pas si je garderai le titre, parce que je suis un peu habitué à modifier les titres. Donc pour l'instant, il s'appelle pour le meilleur et pour le pire, parce que ça englobe à la fois le couple et l'entreprise. Parce que le lien des individus à leur entreprise est un lien fait de loyauté, un peu comme dans le couple. Mais il est tout à fait possible que ça change en cours de route. Donc, en tout cas, ça sera un film avec Vincent Lindon qui jouera le.
Encore.
Ouais, mais encore parce que c'est quand même un privilège incroyable d'avoir croisé la route de quelqu'un comme ça, qui se questionne avec moi sur ce qu'on est en train de fabriquer, pourquoi on le fabrique, à quel endroit on a envie d'être. Et puis on va ensemble retrouver Sandrine Kiberlin. Et c'était il y a 10 ans qu'on avait tourné ensemble à Nozel Chambon. Donc c'est super émouvant de se retrouver tous les trois et plein de monde autour. Marie Drucker aussi, qui va jouer, pas du tout Marie Drucker, qui va jouer un vrai rôle. Elle est complètement hallucinante de vérité. Et puis plein de cadres et d'ouvriers, quelques ouvriers aussi. En fait, c'est un film où on va, les cadres vont parler des ouvriers alors qu'on voit assez peu les ouvriers. Voilà.
Stéphane Brisé, quand vous tournez un film, vous avez l'impression que peut-être vous allez changer le monde, changer chez des gens la perception du monde. Je pense que pour s'engager dans de telles entreprises, il faut aussi être optimiste. Et en même temps, vous savez très bien que ce ne sont pas des films qui changent des systèmes politiques.
Ouais, bah, il faut être un peu idéaliste, mais force est de constater que ça ne change rien. Donc il faut partir avec cette idée que ça va tout changer, alors qu'on sait que ça ne va rien changer. Donc c'est quand même une sorte de schizophrénie. Mais il faut être habité par quelque chose, par une nécessité. J'ai le sentiment d'être un peu comme quelqu'un avec une lampe torche qui éclaire une des petites lumières qui éclaire, quoi. Voilà, je trouve qu'on a moins de chances d'avoir un accident ou la nuit en voiture si on allume les phares. Donc voilà, j'ai l'impression d'être juste une des petites torches. Alors il y a plein d'autres réalisateurs qui font le travail, ce travail-là aussi, avec l'idée d'éclairer un peu notre monde dans les endroits qui sont un peu sombres. Je trouve ça assez fascinant de fabriquer de la fiction. Ce qui est terrible à dire, c'est que c'est une situation assez privilégiée pour créer de la fiction, parce que c'est une situation de guerre, en fait, de guerre économique, de conflit, d'opposition entre des plus riches et des moins riches, des privilégiés, des moins privilégiés. Et donc, inévitablement, le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui peut créer des fictions extrêmement puissantes. Donc, ces sujets m'intéressent, mais ils sont aussi très, très intéressants à s'emparer, parce qu'on peut fabriquer des histoires extrêmement fortes. Mais pas en étant didactique, en regardant les hommes vivre. Et en regardant les hommes vivre, et finalement beaucoup mourir en ce moment, c'est fascinant ce que nous raconte notre époque, et d'une violence inouïe, et est donc fascinant à regarder et fabriquer de la fiction à partir de ça. Ouais, je trouve ça assez incroyable.
Merci Stéphane Brisé.
Merci à vous.
Corinne Amar à la coordination et Vincent Abouchard à la réalisation de ce réveil culturel du 18 décembre 2019. En raison d'un conflit social, c'est une journée spéciale sur France Culture dans un instant. Le journal, tout de suite après, Julie Gacon pour les enjeux internationaux. Bonne matinée.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo.
1872, un explorateur français dilettante, une espionne belge et un philosophe bantou remontent le fleuve Congo à la recherche d'un savant disparu. Entre récits d'aventure et histoire coloniale, France Culture propose une série haletante à télécharger en 10 épisodes.
Vous aurez des ennemis redoutables,
mais ne vous méprenez pas sur vos véritables ennemis.
Mais parlez
de Belge Tréguier.
Une série d'aventures en partenariat avec la SACD, à écouter au casque en son immersif, en exclusivité sur franceculture.fr et les plateformes de podcast.
France Culture présente la revue Tintin, c'est l'aventure, en vente actuellement en librairie et chez les marchands de journaux. Dans ce nouveau numéro,
Découvrez un grand reportage sur la montagne chère à Hergé et sur la spiritualité. Un entretien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne et un dépli BD inédit de l'auteur Jacques Ferrandez. Partez à l'aventure avec Tintin et Géo, un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Au lendemain d'une troisième journée de manifestation contre la réforme des retraites et à 3 jours des vacances de Noël, Édouard Philippe, le Premier ministre, reçoit à nouveau les syndicats à Matignon aujourd'hui. Pendant ce temps, le trafic ferroviaire est toujours bloqué et les manifestants étaient nombreux dans les rues hier. Il y avait aussi hier le personnel hospitalier mobilisé pour plus de moyens pour l'hôpital public. Vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal, nous irons aux États-Unis où la Chambre des représentants doit voter la mise en accusation de Donald Trump. Ce sont les suites de l'affaire ukrainienne. Et puis nous vous raconterons pourquoi un footballeur allemand est pris à partie par la Chine. Il avait critiqué il y a quelques jours sur les réseaux sociaux la répression chinoise contre les Ouïghours. De nouvelles négociations s'ouvrent donc cet après-midi entre Matignon et les partenaires sociaux. Négociations sur la future réforme des retraites. Après avoir présenté son projet mercredi dernier, le gouvernement a un espoir, trouver un accord avec les syndicats réformistes, comme la CFDT, qui est pour le système de retraite universel par points, mais contre un âge pivot. Parmi les grévistes les plus mobilisés depuis 2 semaines, les cheminots ne veulent toujours rien lâcher. Le trafic sera donc encore très perturbé aujourd'hui et jusqu'à ce week-end pour les premiers départs en vacances avant Noël. La SNCF estime toutefois pouvoir faire voyager toutes les personnes qui ont déjà réservé un billet de TGV à Kim Kasmi.
Si la SNCF se veut rassurante en indiquant qu'elle aura suffisamment de capacité pour transporter ce week-end les passagers ayant déjà réservé un billet de TGV pour les départs des congés de Noël, la patience sera de mise. Car dans la moitié des cas, les voyageurs devront changer d'horaire ou d'itinéraire. Quant à ceux qui auront leur train annulé, soit un tiers des clients, ils pourront changer gratuitement leur billet de train, y compris pour un Ouigo, la marque low cost de la SNCF. Rachel Picard, la directrice d'SNCF Voyage.
Pour le Paris-Grenoble, par exemple, où normalement on a 9 allers-retours chaque jour, pour pouvoir faire avec les ressources disponibles, c'est-à-dire avec peu de conducteurs et puis peu de personnes dans les postes d'aiguillage, on fait seulement 5 allers-retours, mais on double les rames. Donc on a de quoi accueillir le nombre de passagers qui tenaient dans les 9 rames, puisque en fait on a l'équivalent de 10.
Des chiffres beaucoup trop optimistes, selon Didier Aubert, le secrétaire général de la CFDT.
Nous avons les taux de grévistes qui sont quand même assez soutenus, y compris dans le cadre des agents de conduite. Et même s'ils font rouler beaucoup d'agents d'encadrement en remplacement, ça va avoir du mal à tenir l'objectif.
Au total, la SNCF estime pouvoir offrir 850 000 sièges ce week-end.
C'était Hakim Kasmi. Alors pour tenter de sortir de l'impasse, Laurent Pietraszewski, député du Nord et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a été nommé hier soir secrétaire d'État en charge des retraites. À 53 ans, il remplace ainsi Jean-Paul Delevoye, qui avait démissionné lundi après les révélations sur ses activités parallèles non déclarées. Le nouveau monsieur retraite a du travail, alors que la nouvelle journée de protestation hier a fortement mobilisé. Il y avait 615 000 manifestants partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. 1 800 000 répond la CGT. Et dans le cortège également hier, des représentants du personnel hospitalier. À Paris, ils ont défilé avant l'intersyndicale contre les retraites. Et certains participants ont donc enchaîné avec la manifestation nationale. Parmi eux, Julie, infirmière, 31 ans, sous une banderole.
Il y a marqué « Hôpital en danger, soignant à bout de souffle, au secours ». Je suis infirmière en réa pédiatrique, je suis à l'hôpital Robert Debré et on n'en peut plus, on est à bout. Parce qu'on n'est pas en nombre, parce qu'on est en sous-effectif tout le temps, sous tension, qu'on fait des métiers difficiles et qu'on est mal payé. On fait des soins à la chaîne sans avoir le temps d'être humain en fait. C'est pas comme ça qu'on conçoit notre métier quand on s'engage à l'origine. Moi ça fait 1 an et demi que je suis en poste. Je suis déjà à bout et je pense déjà à la suite, à la reconversion. Et c'est dommage parce que c'est un très très beau métier et que soigner des gens, c'est notre leitmotiv. Tous les matins, on se lève avec une vraie envie. Et aujourd'hui, on est en grève, ça fait 3 semaines, 1 mois. Et en fait, on est assigné à notre poste tout le temps. Donc c'est des grèves invisibles, sourdes et on n'obtient rien pour l'instant. Les politiques actuelles sont en train de nous écœurer.
C'était le témoignage d'une infirmière, Julie, infirmière parisienne, interrogée par Catherine Pétillon. Alors que plus de 210 000 femmes sont chaque année victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs compagnons, le Parlement s'apprête à adopter définitivement aujourd'hui le bracelet anti-rapprochement. Il s'agit d'éloigner les conjoints ou ex-conjoints violents. Le montant du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique sera revu à la baisse en 2021 et 2022. Il est actuellement fixé à 6 000 euros. Ce sera moins donc d'ici un an. Voilà ce que dit le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il dit prendre en compte la baisse des prix de ce type de véhicule électrique donc. L'automobile encore, et cette annonce attendue aujourd'hui, PSA et Fiat Chrysler devraient officialiser un protocole d'accord pour fusionner. Cela ouvre la voie à la création d'un géant européen de l'automobile dans le secteur en pleine mutation. La Chambre des représentants aux États-Unis va voter dans la journée la mise en accusation de Donald Trump. Cela fait suite au coup de téléphone échangé fin juillet avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un coup de téléphone dans lequel le président américain lui demandait des informations compromettantes sur son rival politique, le démocrate Joe Biden. Sans beaucoup de suspense, la Chambre des représentants à majorité démocrate va donc adopter les deux chefs d'accusation qui visent Donald Trump, à savoir abus de pouvoir et entrave au bon fonctionnement du Congrès. Donald Trump a déjà réagi, Grégory Phillips.
Cette enquête, c'est une imposture totale, dit Donald Trump dans le bureau ovale, alors qu'il reçoit hier après-midi le président du Guatemala. Une heure plus tard, la Maison-Blanche rend publique une lettre de 6 pages que le président vient d'adresser à la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, qui l'accuse de miner la démocratie. Une procédure plus équitable a été accordée aux accusés du procès des sorcières de Salem, écrit furieux le 45e président des États-Unis. Le ton est à peu près identique chez les élus républicains. Le sénateur McConnell parle de procès politique et chez les supporters de Trump, comme Ellie, rencontrée la semaine passée dans le New Hampshire. Tous ces témoins que les démocrates ont convoqués ont tous confirmé qu'il n'y avait aucune preuve d'échange de services avec les Ukrainiens. Aucune preuve. Tout à l'heure à la Chambre, aucun des 197 représentants républicains ne devrait voter cette mise en accusation du président. Au Sénat, largement dominé par le camp conservateur, même unité, et il n'y a quasiment aucune probabilité que le procès de Donald Trump, qui pourrait avoir lieu dès janvier, aboutisse à sa destitution.
C'était Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Le militant des droits de l'homme et universitaire ouïghour Ilham Tohti se verra décerner aujourd'hui le prix Sakharov 2019. Et c'est sa fille qui le recevra au Parlement européen aujourd'hui, car Ilham Tohti purge une peine de prison à perpétuité en Chine actuellement. Pékin est accusé d'avoir interné jusqu'à 1 million de musulmans en Xinjiang, province turcophone du nord-ouest de la Chine. Le pouvoir dément. C'est un sujet sensible et ceux qui l'abordent publiquement sont immédiatement critiqués par le régime communiste chinois. Le dernier en date d'ailleurs est un footballeur, un Allemand d'Arsenal, Dominique André.
Mesut Özil, footballeur allemand d'origine turque, publié il y a quelques jours sur son compte Twitter et Instagram, ce message écrit en turc « Des Corans sont brûlés, des mosquées détruites, les écoles islamiques interdites, des frères sont envoyés par la force dans les camps ». L'indignation du joueur a provoqué la colère du gouvernement chinois qui a suggéré au milieu de terrain germano-turc de se rendre au Xinjiang pour se rendre compte. En représailles, la chaîne de télévision d'État CCTV a censuré la diffusion d'un match Arsenal-Manchester et les réseaux sociaux chinois depuis ne cessent d'alimenter la polémique. Le régime de Pékin a toujours nié l'existence de camps de rééducation politique, parle de centres de formation professionnelle et rappelle que le Xinjiang a été frappé par des attentats sanglants. Les propos publics des célébrités étrangères sont particulièrement surveillés en Chine dès que des sujets sensibles sont abordés. Le responsable de l'équipe de basket des Houston Rockets en a fait les frais lorsqu'il a critiqué récemment la répression du mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Mais le fait que les clubs prennent leur distance avec leurs stars pour faire plaisir au gouvernement à Pékin ne leur a pas permis d'éviter les foudres du Parti communiste chinois.
Dominique André. Des averses sont attendues sur l'est de la France ce mercredi, sur la Bretagne également, mais en fin de journée. Ailleurs, les nuages laisseront percer quelques éclaircies sous des températures largement au-dessus des normales de saison, légèrement au-dessus des normales de saison. Il fait 8 degrés ce matin à Lille, 9 à Paris, 10 degrés à Rennes et Strasbourg, 13 à Bordeaux, 15 à Lyon et ce matin 18 degrés à Marseille. Il est 6h40 sur France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à tous.
Nous vous retrouvons pour les enjeux internationaux. Et les programmes de la journée, Julie, seront largement consacrés ce mercredi aux mouvements sociaux, dont celui qui touche Radio France depuis 3 semaines maintenant. Vous vous penchez donc ce matin sur le modèle de l'audiovisuel public au Royaume-Uni.
Oui, le sacro-saint modèle de la BBC qui nous est érigé en exemple, notamment par Emmanuel Macron qui, pendant sa campagne, parlait déjà de créer une BBC à la française. C'est dans cet esprit qu'a été confirmé la semaine dernière la création d'une holding de l'audiovisuel français qui bientôt regroupera Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde, RFI et France 24. Certes, ce n'est pas la holding en tant que telle qui a provoqué la grève à Radio France depuis plus de 3 semaines, mais le plan de départ volontaire présenté par la présidence de Radio France, 299 postes et 60 millions d'euros d'économies, dont 20 sont la conséquence d'une baisse de la dotation de l'État. Mais les calendriers se télescopent, les salariés et producteurs de Radio France se demande dans quelle mesure ce plan d'économie est fait pour préparer l'intégration de la maison de la radio au futur groupe et surtout si comparer cette holding à une BBC à la française est pertinent ou pas et si oui, s'il faut s'en réjouir ou pas. Bonjour Gaël Villeneuve.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur au laboratoire communication et politique du CNRS. Alors Gaël Villeneuve, la BBC et l'avenir de l'audiovisuel public, c'est justement l'objet de sérieuses inquiétudes outre-Manche depuis la campagne pour les élections du 12 décembre, puisque Boris Johnson a décidé de boycotter la première matinale radio, Radio 4, au motif qu'elle ne serait pas impartiale et menace la redevance, ou plus précisément, il envisage de dépénaliser le non-paiement de la redevance. C'est un débat qui existe depuis longtemps au Royaume-Uni.
Il existe à peu près depuis la naissance de la BBC, c'est-à-dire voilà depuis environ les années 1920. Depuis le début, effectivement, le choix de faire contribuer les auditeurs à payer pour cette radio, le choix de faire un modèle public plutôt que les modèles privés qui existaient déjà aux États-Unis, a posé des problèmes, a fait discussion, a fait débat, et assez vite, la BBC, du fait de son attachement de fait à une administration, du fait de son attachement à l'État, s'est trouvée prise en porte-à-faux dans les mouvements sociaux, notamment la grande grève. En Angleterre de 1926, j'espère ne pas dire de bêtises, au cours de laquelle Churchill a attaqué ouvertement la BBC, Churchill, conservateur, le parti de Boris Johnson. Et donc depuis, régulièrement, de Churchill à Thatcher, de Thatcher à Cameron, de Cameron à aujourd'hui...
Et donc dépénaliser, Boris Johnson, lui, c'est dépénaliser le non-paiement de la redevance, parce qu'il faut expliquer qu'au Royaume-Uni, ne pas payer sa redevance, c'est un délit. Ça représenterait quoi? 240 millions d'euros, dit-il. C'est beaucoup. Sur combien? La redevance représente quoi? Sur les fonds propres de la BBC?
Oui, autour de 5 milliards de livres, si mes chiffres sont exacts. Mais si vous voulez, bon, Boris Johnson, il fait du Boris Johnson. Il fait des coups d'éclat. Cette histoire de dépénaliser, ça correspond en fait à une position, enfin à une situation marginale dans le Royaume-Uni où certaines personnes se trouvent attaquées en justice, certaines même finissent en prison, c'est très rare, hein, pour non-paiement de la redevance. Il s'attaque à ça, mais le problème de fond, c'est pas est-ce qu'on va en prison ou pas pour la redevance, c'est est-ce qu'il faut la payer, est-ce que tout le monde doit la payer, et ça c'est un débat qui agace au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, le principe de la redevance est un peu différent de la redevance française, puisque chaque Britannique qui regarde une émission de la BBC, quel que soit l'écran utilisé, doit s'acquitter de la redevance, qui, alors la redevance c'est 164 euros, c'est ça par foyer, contre 139 euros en France, bientôt 130 au moins jusqu'en 2022 et après on ne sait pas, puisque en France Franck Riester assure en tout cas qu'il n'est pas question de la supprimer, mais son avenir est entre parenthèses ou avec un gros point d'interrogation. Dans le débat public au Royaume-Uni, ce qui est quand même régulièrement dit, l'avantage de cette redevance, c'est qu'elle est la seule source allouée par l'État, donc les citoyens connaissent précisément le coût du service rendu.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a certains Anglais, enfin, des gens qui sont proches de l'establishment de la BBC, qui se réjouissent du fait que, avec le Brexit, la BBC se trouve être le seul organe audiovisuel qui sait exactement combien d'argent il va, sur lequel il va pouvoir compter dans les années qui viennent. Parce que ITV, parce que le bouquet Biscay B, avec l'inflation, avec le chaos économique du Brexit, ils ne sauront pas exactement à quoi ils peuvent s'en tenir.
Pourtant, le budget de la BBC n'est pas non plus sanctuarisé.
Relativement, puisque finalement, c'est appuyé sur une redevance, c'est appuyé sur une charte royale décennale.
Beaucoup plus que la pub, d'ailleurs.
Pardon, excusez-moi.
Beaucoup plus que la publicité. La redevance représente la quasi-totalité des ressources propres ou du budget total de la BBC aujourd'hui.
Ah oui. Alors, la BBC, à part une filiale commerciale qui représente moins de 10% de ses bénéfices, la BBC est essentiellement financée par la redevance et la publicité y joue un rôle quasi nul. Hein. Si vous voulez, c'est un autre modèle économique.
Alors, c'est parce qu'elle a dû faire des concessions sur la redevance en 2010, en 2015 notamment, que la BBC a fini par supprimer des postes. Je résume rapidement. En 2010, on lui dit que désormais, ce sont la redevance et la BBC qui vont financer la BBC World, la chaîne internationale, alors que jusqu'à présent, c'était le Foreign Office. En 2015, on lui dit que c'est à elle de prendre en charge la redevance des plus de 75 ans qui jusque-là étaient financés par l'équivalent de la Sécu. À chaque fois, avec un engagement de la part du gouvernement sur le montant de la redevance, en tout cas fixé et immuable pendant 7-8 ans, alors qu'en France, ce sont des cycles beaucoup plus courts de 3 ans. Est-ce que ce contrat peut être négocié? Quand, pourquoi, comment? Est-ce qu'il y a menace néanmoins sur les ressources propres de la BBC?
Vous voyez l'exemple des plus de 75 ans, l'exemple de la dépénalisation possible des non-payeurs. Finalement, le gouvernement est obligé d'être... Quand il veut faire baisser les ressources propres de la BBC, il est obligé d'aller chercher les marges. Le fond, c'est qu'effectivement, il y a une sanctuarisation de fait du budget, du fait que c'est une redevance qui est garantie par une charte. Mais oui, cette redevance, à terme, s'il y a une crise politique, c'est quand même les députés qui la votent. Donc, ils pourraient la faire baisser. Mais le fond de l'histoire, et beaucoup d'Anglais nous le disent, enfin, quand on discute avec des chercheurs là-bas, c'est que la BBC est protégée d'abord par, on va dire, une certaine forme d'entre-soi. Elle fait partie de l'élite patricienne anglaise. Les gens de la BBC, c'est pas des instituteurs de campagne qui ont été pris par des syndicats pour mettre à la tête du premier média du pays. C'est des barons, c'est des gens qui font partie de l'establishment d'anglais.
Voilà, de la direction de la BBC.
Bien sûr, oui.
Alors, en 2015, est-ce que ce sont eux qui, en 2015, quand tu as lu un gros plan social, mais un énième plan social en réalité, parce que depuis 2010, il y a eu plusieurs plans de suppression de postes, on en a supprimé quoi en tout 1000 sur 16 000 en 2015, sur quels arguments et qui sont ceux qui ont été licenciés? Parce que ce qu'on dit, c'est la particularité de ces plans sociaux, c'est que ce sont les cadres qui sont partis.
Oui, effectivement, on assiste à une réduction de la taille de la BBC, et c'est cohérent avec l'ensemble des services publics anglais. Pour un autre exemple, moi, que je connais aussi par ailleurs, l'université anglaise rétrécit. Les Anglais disent « shrinking », voilà, rétrécit. Dans les faits, évidemment, c'est pas uniquement les journalistes qui sont visés, c'est les cadres, c'est les musiciens. La BBC, c'est aussi un très grand nombre d'orchestres.
Radio France, les musiciens ont été touchés par ces plans sociaux.
Mais c'est-à-dire que tout le monde est pris. Enfin, c'est le principe de la décimation. Hein. 1/10 s'en va. Et effectivement, ce qu'on a du mal à s'imaginer, c'est que la BBC, c'était un état dans l'état, de fait. Et donc, la réduction implique énormément de métiers.
Est-ce qu'il y a eu un choix politique, stratégique, de ne pas toucher à la production?
Alors, la production, moi, personnellement, j'ai fait ma thèse sur un débat télévisé, Question Time, et en fait, il est produit par une société privée. C'est-à-dire que Mentorn, en l'occurrence, la production privée existe à la BBC, c'est une boîte noire. Et dans le débat présent sur Question Time, le problème, c'est que comme c'était privé, ils avaient tendance à bien aimer beaucoup l'audience, c'était quand même un peu leur marqueur, et ils avaient invité, pour la grande soirée de la BBC, le mec du BNP, British National Party, qui est à droite de Marine Le Pen, et donc qui avait fait un scandale, puisqu'on s'était retrouvé hors de grande écoute, un type raciste d'extrême droite, suprémaciste blanc, qui avait fait des millions. Donc c'est aussi, il y a ce débat-là depuis longtemps, et depuis, effectivement aussi, que le privé produit des choses à la BBC.
Mais depuis quand les programmes de la BBC se sont ouverts à la concurrence? Pendant très longtemps, elle a tout produit en interne.
Oui, pendant très longtemps, elle a tout produit en interne. Et la période Thatcher est une période pivot à ce niveau-là. Puisqu'évidemment, c'est le moment où on va considérer que y a rien de mieux que le privé pour faire bien fonctionner les choses. Mais la concurrence a... Et enfin, il y a Simon Dawes, un auteur britannique que je salue, a écrit un livre qui dit qu'effectivement depuis le début, depuis la naissance de la BBC, lui il a étudié les textes des régulateurs. Vous savez, chaque année, tous les deux ans, les régulateurs, l'Ofcom, les gens du wireless, ils sortent un petit bouquin pour dire voilà où on en est, voilà ce qu'il faut faire sur la BBC. La concurrence, elle est partout. Elle est partout depuis le début. Depuis les années 50, quand on a commencé à créer ITV, à créer de la télé privée en Angleterre, c'était aussi pour faire concurrence à la BBC, parce que il y a quelque chose dans l'ADN politique britannique. Bon, la concurrence, c'est quelque chose qu'on aime bien, quoi.
La BBC a longtemps été assez monopolistique. D'ailleurs, c'est un des arguments qui a convaincu la BBC de se réformer. C'est intéressant, elle était trop forte sur le marché. Elle monopolisait 80% du temps d'antenne. Les autres radios n'arrivaient pas à vivre. Donc, c'est au nom du pluralisme aussi qu'on a diminué la force et la puissance de la BBC. Aujourd'hui, les concurrents, ils sont quand même énormes. C'est par exemple Netflix qui finance, entre autres, une série, The Crown, que la BBC a pensé, réfléchi, mais qu'elle n'a pas pu financer. Donc, c'est Netflix qui s'en est emparé. Comment la BBC s'est préparée ou se prépare toujours à la concurrence de ces plateformes, Netflix, mais même YouTube, et est-ce qu'elle a mis beaucoup d'argent dans la transition numérique pour concurrencer les plateformes?
Alors, elle a énormément mis d'argent dans la concurrence numérique, et c'est des gens qui sont à la pointe de ce point de vue-là. Le public, ça peut marcher très bien, hein, faut pas croire, et les privés peuvent marcher très mal. Mais au moins, du point de vue de la concurrence, il y a au moins deux types, c'est ça qui est très intéressant, deux types de concurrents. Il y a les concurrents, on va dire, type TF1, c'est-à-dire service, on va dire, télévision privée, radio privée. Eux, ils sont pas très bien en ce moment, parce que leur modèle, c'est la publicité, c'est de vendre le public à l'annonceur. Or, en ce moment, la publicité, elle va où? Elle va chez Google. Il y a un assèchement du marais publicitaire pour les médias traditionnels privés. C'est très difficile et on a aussi ça en France. Par contre, effectivement, il y a aussi les acteurs type Netflix, les nouvelles plateformes. Bon, on peut parler de Disney+, on peut parler de la plateforme d'Apple qui vont arriver. Est-ce que eux, ils sont capables de faire le métier de la BBC? Pas tout à fait non plus. Par exemple, sur Netflix, il n'y a pas de présentateur vedette. C'est tout bête, mais vous n'avez pas un type comme le présentateur de Top Gear, l'émission de voiture de la BBC, bon, qui a ses qualités, ses défauts, mais qui chaque fois qu'il passe à la télé suscite une passion folle. En face, pour l'instant, de la BBC, ils ont une radio-télévision privée qui va pas très bien et des robinets à contenu.
Donc en fait, la BBC aujourd'hui, elle fonctionne comme une marque. J'ai l'impression, quand au Royaume-Uni, les gens doivent s'informer pendant une crise, par exemple un attentat, ils disent qu'ils vont sur la BBC, quel que soit le support. Est-ce que c'est ça qui fait sa force? La BBC est devenue une marque, ou est-ce que sa force est le fruit d'une histoire d'un siècle?
La BBC a toujours été une marque, et pas uniquement du point de vue des téléspectateurs. C'est quand même très pratique pour le Foreign Office, pour le ministère des Affaires étrangères, d'avoir la BBC. Qui, c'est pas de dire qu'ils bossent main dans la main, évidemment. Chacun a son indépendance, à son point de vue, et l'un peut frotter l'autre. Mais ils ont des producteurs de radio, télévision de qualité en langue anglaise partout, qui sont connus partout et qui sont une marque de sérieux du Royaume-Uni.
aujourd'hui, Gaëlle Villeneuve, l'avenir de l'audiovisuel public, c'est aussi une question générationnelle. Si l'on prend par exemple l'exemple de la votation qui a eu lieu en Suisse il y a un an ou deux pour savoir s'il fallait continuer ou pas de payer la redevance, cette question elle a été posée par des jeunes qui disaient « je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, pourquoi devrais-je payer la redevance ?» Est-ce qu'à la BBC cette question générationnelle se pose? Comment la BBC cherche à attirer le public jeune et comment elle investit aujourd'hui, encore une fois, dans le numérique, même si au niveau podcast, par exemple, elle n'arrive pas à la cheville de Radio France.
Alors, oui. La question de du consentement à l'impôt, de toute façon, il existe à peu près depuis la naissance de l'impôt. Et évidemment, en ce moment, dans une société marquée par le 5-1 pour soi, on n'a pas forcément très envie de payer pas très envie de payer tout court. Voilà. À côté de ça, ce qui est intéressant vis-à-vis de la BBC, je trouve, c'est de considérer que ça peut être un modèle, c'est quelque chose qui marche très bien, mais les Anglais ne sont pas fans de leur propre BBC, pas tous les Anglais.
Ah, elle bénéficie quand même d'une énorme crédibilité, la BBC.
Une énorme crédibilité critique. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la BBC est trop blanche, elle est trop Oxbridge, Oxford-Cambridge, la société
trop masculine. Les grandes universités.
Voilà, les grandes universités. Qu'elle est trop masculine. Et que aujourd'hui, il faut réformer, il faut démocratiser. La BBC a été créée il y a un siècle, à une époque où il y avait de l'analphabétisme en Angleterre, où les gens attendaient la bonne parole, comme chez Monsieur le curé. Aujourd'hui, enfin, voilà, le pasteur. Aujourd'hui, en 2019, on a des populations qui sont davantage éduquées, qui voyagent, qui ont leur propre savoir-faire. Peut-être qu'il faut leur demander davantage, il faut démocratiser le truc.
Alors aujourd'hui, c'est peut-être pour conclure, Gaëlle Villeneuve, l'autre conséquence de cette réduction des coûts, à moins qu'elle n'en soit à l'origine, je ne sais pas, la radio et la télévision font désormais rédaction commune. Il y a une fusion des rédactions en 2012-2013. Alors en France, les partisans de la réforme se défendent publiquement de vouloir aller aussi loin. Mais est-ce que chaque chaîne aujourd'hui conserve son indépendance éditoriale et est-ce que chaque métier conserve ses spécificités, ses compétences et est-ce que les compétences, oui, sont maintenues ou est-ce qu'on a mis des professionnels de la radio, on les a engagés à faire de la télé et vice-versa?
Pas à ma connaissance, je suis pas l'expert absolu là-dessus, mais le principe c'est plutôt de faire travailler les gens ensemble sur des métiers qu'ils connaissent déjà. Après, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que la BBC a toujours été une et unie, contrairement au service public audiovisuel français, qui dans les années 70 a été éclaté en morceaux. Et qu'aujourd'hui, on essaye de refonder en une unité. Donc c'était peut-être, plus facile pour les gens de la BBC de travailler ensemble, vu qu'ils n'avaient jamais été aussi séparés.
Merci beaucoup Gaëlle Villeneuve d'avoir été avec nous. Et je rappelle que France Culture, toute la journée, consacre ses programmes à la grève qui touche Radio France, mais à tous les mouvements sociaux particuliers qui ont lieu en ce moment et ont cours en ce moment en France, dans tout le pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
En raison d'un mouvement social, journée spéciale ce mercredi sur France Culture. Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, la France connaît un important mouvement social. Si le projet de réforme des retraites est le pivot de la contestation, d'autres sujets s'agrègent au mécontentement, s'agissant des services publics en particulier, santé, éducation, transport. Et depuis trois semaines, Radio France est aussi traversée par un conflit social. Analyse, mise en débat et enjeux, journée spéciale aujourd'hui sur France Culture et franceculture.fr. France Culture présente le prix Marcel Duchamp. Découvrez l'exposition collective d'Éric Baudelaire, Katinka Bock, Marguerite Humeau, Ida Tursik et Wilfried Mill, les quatre artistes nommés pour le prix Marcel Duchamp 2019. Depuis 19 ans, ce prix emblématique rassemble les artistes les plus novateurs de la scène contemporaine française et met en lumière la diversité des pratiques coexistant aujourd'hui en France. Le prix Marcel Duchamp, jusqu'au 6 janvier 2020 au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture.
6h58 sur France Culture. Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes et à tous.
C'est l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Vous voulez évoquer ce matin un événement décisif qui s'est déroulé hier.
Mais oui, un événement extrêmement important. La SNCF m'a confirmé mon train pour Valence, lequel partira bien le week-end prochain.
Et de la chance.
Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pas forcément. Voilà, justement, au bureau hier, tout le monde évoquait ce nouveau jeu de loterie après la Française des Jeux, le nouveau jeu de tirage de la SNCF, SMS surtaxé, votre train est-il confirmé ou annulé? Et comme dans tous les jeux de tirage, il y a des gagnants et des perdants. Je crois que vous êtes hélas une perdante. Voilà. Julie, c'est pas la roulette russe, c'est la roue de la CGT. Hier, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé que tous les voyageurs munis d'un billet pourront partir à Noël. Une information surprenante, sachant que de nombreux trains sont à l'arrêt. Bref, c'est pas la multiplication des pains, mais la multiplication des trains. Alors, c'est une promesse de gacon, pardon Julie, explique le Parisien, puisqu'en réalité, ça n'est donc pas 100% des voyageurs qui seront gagnants. Seuls 68%, explique le quotidien, pourront voyager. D'autres pourront prendre un autre train, mais a priori, entre 10 et 15% des voyageurs, je ne sais pas si vous serez parmi ceux-là, Julie, n'auront pas de solution de remplacement. Je ne vous le souhaite pas. Et le Parisien d'expliquer qu'il s'agit d'une bourde du ministre. La communication de la SNCF serait ainsi contrainte, je cite toujours le Parisien, de coller aux déclarations du ministre. Sauf que le gouvernement a évidemment intérêt à expliquer que tous les voyageurs voyageront, brodant ainsi sur l'un des thèmes les plus classiques de la grève. La grève n'existe pas. Déclaration fameuse de Nicolas Sarkozy, fier d'avoir institué un service minimum qu'il aurait voulu faire passer pour maximum. La bataille du rail est donc un enjeu majeur dans le conflit, puisqu'il s'agit de savoir si oui ou non la grève parvient à stopper les trains. Or, en ce domaine comme dans d'autres, qu'importe si j'ai pris le train, puisque je l'ai fait prendre à des milliers de gens. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité, mais sa perception. Qu'importe si des gens restent à quai, tant que cela ne se sait pas. Ultime détail, d'ordinaire, à la loterie, vous êtes gagnant ou perdant. Là, il reste une incertitude. Si vous avez gagné l'aller, gagnerez-vous aussi le retour?
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et vous le savez, c'est une journée particulière sur France Culture, une journée intitulée « En raison d'un mouvement social », une journée spéciale où l'on évoquera les différents mouvements sociaux qui touchent aujourd'hui la France. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.